pour vous de retrouver le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les dirigeants européens affichent leur unité pour sauvegarder l'accord nucléaire iranien, écho du sommet qui se tient en ce moment à Sofia avec Quentin Dickinson dans un instant. Les populistes italiens dans la dernière ligne droite avant la formation du premier gouvernement anti-système dans un pays fondateur de l'Union européenne. On sera en ligne en direct de Rome avec Mathilde Imberti. En France, une opération de communication politique pour le premier anniversaire de la nomination de l'équipe gouvernementale. Une trentaine de ministres seront sur le terrain aujourd'hui pour défendre la première année de réforme. Commentaire, explication de Stéphane Robert. Cette deuxième opération d'expulsion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Tôt ce matin, elle visait une dizaine de squats. On fera le point avec Yann Gallic et puis la nouvelle présidente de Radio France choisit donc le journaliste Guy Lagache comme directeur délégué aux antennes qui remplace Laurent Guimier, confirmé à la tête d'Europe 1. Dossier radio suivi par Éric Chavroux, l'invité de la séquence interview, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Le réveil du conflit israélo-palestinien, on en parle avec le journaliste franco-israélien Charles Anderlin, correspondant emblématique de France 2 à Jérusalem pendant plus de 30 ans. Il est notre invité à retrouver à partir de 12h55.
Les dirigeants européens donc se retrouvent aujourd'hui à Sofia, officiellement pour confirmer la perspective européenne promise aux pays des Balkans. Mais ce qui a retenu surtout l'attention depuis hier soir, c'est bien sûr cette unité affichée par les Européens pour tenter de sauvegarder l'accord nucléaire iranien, tant que l'Iran le respecte, ajoute le communiqué. Les Européens qui vont apporter leur engagement politique et faire en sorte que nos entreprises puissent rester en Iran, a dit notamment Emmanuel Macron. Sur le même thème, d'ailleurs, le premier ministre belge, Charles Michel, exprimait la nécessité pour l'Europe maintenant de prendre ses responsabilités au micro de Quentin Dickinson.
Nous avons eu l'occasion de dire avec fermeté que nous devons, comme Européens, être respectés par les États-Unis. Ces derniers mois, les États-Unis ont brisé un certain nombre d'engagements multilatéraux en contradiction avec les règles internationales. Il y a aussi un signal de manque de prévisibilité qui n'est pas bon pour la stabilité. Et que ce soit sur la situation de l'accord avec l'Iran dans le cadre nucléaire, que ce soit dans le cadre des relations commerciales Europe-États-Unis, nous pensons qu'il est important de faire preuve d'unité et de fermeté pour défendre nos propres intérêts géopolitiques et économiques. Moi, je n'accepte pas, par exemple, ce Washington qui décide à la place d'entreprises européennes où elles peuvent entreprendre, la liberté d'entreprendre, le libre-échange sont pour moi des valeurs libérales, démocratiques extrêmement fortes que l'on doit préserver dans ce moment international.
Voilà donc Charles Michel pour les intentions. Des intentions à la réalité, il y a parfois un pas. L'armateur danois, par exemple, de navires pétroliers Maersk Tankers annonce tout à l'heure la cessation de ses activités en Iran. Le groupe pétrolier Total avait aussi confirmé hier qu'il ne pourrait poursuivre son projet de développement du plus grand gisement de gaz naturel au monde en Iran qu'à la condition d'obtenir une dérogation le protégeant contre toute sanction secondaire de la part des États-Unis. On salue l'invité de la séquence interview, Sylvie Matelli, bonjour.
Bonjour.
Directrice adjointe de l'IRIS. Est-ce que pour les Européens, continuer de commercer avec l'Iran, c'est évidemment s'opposer concrètement à la politique américaine. Est-ce que c'est une question seulement de volonté politique, selon vous ?
C'est pas seulement une question de volonté politique, c'est une question d'action politique et de positionnement politique. Et il est très clair qu'à court terme, il n'y a rien qui se dessine de concret du côté des Européens et que bien évidemment, tous les contrats qui ont été engagés par des entreprises européennes vont être mis en suspens parce que les entreprises ne sont pas prêtes à prendre de tels risques. Le risque étant la cessation de leurs activités aux États-Unis ou en tout cas un certain nombre d'impossibilités de travailler
donc,
avec les
si
États-Unis.
Les Européens sont d'accord pour dire allez-y quand même, il n'y a pas les moyens pour les États de protéger ces entreprises, évidemment, de ce risque qui est un risque simplement industriel.
La seule chose qu'il y a actuellement, c'est l'action commune et le règlement qui avait été décidé en 1996 qui ne couvre pas que les sanctions contre Cuba, qui couvre l'extraterritorialité, mais qui a été en réalité très peu appliqué. Donc les entreprises ont l'habitude de ce type de discours et ont un petit peu du mal à se rattacher à ça pour garder confiance et rester en Iran.
Merci beaucoup. On vous retrouve donc pour la séquence interview et développer toutes ces questions de commerce international, notamment dans cette situation politique internationale tendue sur ce point. Merci Sylvie Matelli. Et pendant ce temps, en Italie, les chefs de file du mouvement 5 étoiles et de la Ligue sont une nouvelle fois réunis pour tenter de régler les derniers arbitrages de leur programme commun, s'accorder sur le profil aussi du futur chef de gouvernement. Les deux parties annonçaient en tout cas hier soir avoir rédigé un contrat pour le gouvernement du changement, ça s'appelle s'appelle comme ça, 22 points, 40 pages. Programme qui sera soumis au vote des militants des deux formations sur Internet pour le mouvement 5 étoiles et dans des stands samedi et dimanche pour la Ligue dans toute l'Italie. Alors la plus ancienne version du programme évoquait notamment une sortie de l'euro pour l'Italie. Ça a provoqué une vague d'inquiétude qui a fait plonger d'ailleurs la bourse de Milan hier de plus de 2%, grimper aussi le fameux spread, l'écart observé en Italie entre les taux d'emprunt italien et allemand à 10 ans, qui a pris 151 points d'un coup. Et ce matin, eh bien, c'est plutôt l'accalmie. Mathilde Imberti, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors, accalmie, bon, les deux parties continuent de discuter. Ils semblent s'être mis d'accord, malgré tout, pour mettre un bémol sur ce qui les rassemble finalement le plus, c'est-à-dire leur euro-scepticisme et leur politique vis-à-vis de l'Europe.
Oui, effectivement, l'ébauche de programme dont vous avez parlé, Antoine, a été édulcorée. Les points les plus polémiques n'apparaissent plus, à savoir la demande d'effacement d'une partie de la dette publique italienne, quelques 250 milliards d'euros détenus par la Banque Centrale Européenne. Ce point avait littéralement estomaqué les observateurs européens. Et puis, deuxième point, la sortie de l'euro. L'hypothèse n'est plus envisagée dans l'accord rédigé par les experts des deux parties. Il n'est pas question d'organiser un référendum sur la question. Par contre, l'Europe reste nettement critiqué et le programme parle de la révision des traités européens. Sur la question migratoire en particulier, les deux néo-alliés, Ligue et 5 étoiles, voudraient remettre sur la table le règlement de Dublin qui met l'Italie en première ligne pour traiter les demandes d'asile des migrants. Ensuite, avec l'Europe, eh bien, c'est un changement de ton net. Hein. Tout de même, il y a encore Matteo Salvini, le secrétaire de la Ligue, a dit qu'il n'accepterait pas les diktats de hauts fonctionnaires non élus, alors que quelques heures plus tôt, trois commissaires européen avait exprimé des réserves sur les intentions du futur exécutif.
Allié au Front National français, il faut rappeler, M. Salvini reconnaissait aussi que l'immigration restait un thème chaud dans ses discussions. Il y a un avenir ici pour les braves gens, disait-il, mais pas pour les milliers de délinquants. Il n'y a qu'une voie rentrée à la maison. Maintenant, Mathilde Imberti, la question se pose de savoir, puisque ça fait longtemps que, malgré tout, un certain temps que des discussions se déroulent. Apparemment, les choses avancent. Quelles sont les chances de voir aboutir maintenant ces discussions ?
Alors, elle devrait aboutir, à en croire Matteo Salvini, le secrétaire de la Ligue, qui est bien placé pour en parler. L'entente se fera dans la journée, selon lui et selon les médias italiens. Ce matin, les deux leaders, Salvini et Luigi Di Maio pour les 5 étoiles, devraient présenter lundi au chef de l'État italien leur programme complet et le nom d'un président du Conseil, un nom qui n'a pas encore été trouvé à cette heure.
Alors, il faut quand même encore souligner que c'est ce que font les observateurs en Italie, notamment le caractère tout à fait inédit de cette nouvelle coalition qui s'apprête à prendre le pouvoir à Rome.
Oui, la presse d'ailleurs en perd presque son latin. Tout change avec ces nouveaux leaders, y compris leur rapport justement aux journalistes. Ils sont très méfiants et s'adressent plus volontiers aux Italiens via Facebook. C'est ce qu'a fait Luigi Di Maio cette semaine pour déclarer « Plus ils nous critiquent, plus je suis motivé ». Et le « il » s'adressait à la presse traditionnelle. Oui, c'est une coalition inédite aux portes du pouvoir en Italie. La Ligue gouvernait certes déjà dans les années 90 aux côtés de Silvio Berlusconi, mais les 5 étoiles n'ont jamais mis les pieds au Palazzo Chigi. Et les deux formations politiques ensemble n'ont jamais ni évidemment dirigé le pays, ni même une réalité locale importante comme une région italienne. C'est un saut dans l'inconnu pour le pays.
Mathilde Imberti, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct de Rome. En France, initiative plutôt originale que lance aujourd'hui le gouvernement, opération de communication politique pour le premier anniversaire de la nomination de cette équipe gouvernementale. Une trentaine de ministres, c'est-à-dire pratiquement tout le gouvernement, va être sur le terrain dans différentes villes de France pour défendre la première année de réforme, selon l'expression du porte-parole Benjamin Griveaux. Il s'agit de répondre aux questions que les gens se posent sur cette action gouvernementale. Monsieur Griveaux qui précise que le cadre de ces déplacements, donc durant chacune de ces réunions qui sont programmées dans des villes de taille moyenne, la plupart du temps, eh bien, il y aura une introduction courte de 10 minutes et puis après des questions-réponses. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors comment d'abord cette opération a été préparée ?
Bien, il ne faut pas imaginer des ministres qui iraient comme ça à la rencontre de la population, par exemple sur un marché pour discuter à bâton rompu de l'action du gouvernement. Pas du tout. C'est une opération très encadrée qui est organisée là, puisque pour participer aux réunions publiques qui se tiendront un peu partout en France en début de soirée, il fallait s'inscrire au préalable, soit via le site internet du gouvernement, soit directement en préfecture. Et donc, pour entrer ensuite, vous devrez prouver votre identité. Cette procédure va permettre de limiter considérablement l'infiltration de groupes de contestataires. D'autant que, quand vous vous inscrivez, il est précisé que votre fiche d'inscription est conservée pendant un mois en préfecture. Par ailleurs, dans la plupart des cas, ce sont des salles relativement modestes qui ont été réservées, pouvant accueillir quelques centaines de personnes tout au plus. À chaque fois, il est précisé d'ailleurs nombre de places limitées. Des mails ont également été envoyés à tous les maires des départements concernés pour les inviter à venir participer. Et parallèlement, les comités locaux de La République En Marche ont fait la promotion d'événements pour rameuter des participants, notamment des chefs d'entreprise. Tout ça devrait conduire au fait qu'on sera bien souvent entre gens de bonne compagnie qui ne devraient pas avoir la critique trop véhémente.
Voilà, donc ça s'appelle quand même aller sur le terrain malgré tout, puisqu'ils vont quand même se déplacer. Quelle est la visée politique ?
Pour comprendre la visée, ou plutôt les visées politiques, il faut partir d'une sorte de bilan et regarder les perspectives. Le bilan, c'est que le pays apparaît aujourd'hui fracturé et qu'Emmanuel Macron est perçu comme le président de la France des riches contre la France des pauvres, de la France des villes contre la France des campagnes, voire comme le roi en son palais à Paris qui regarde avec un peu de condescendance les soubresauts de la province. Il faut donc tenter de recoller les morceaux et envoyer au front des ministres perçus comme un peu trop techno afin qu'ils fassent un peu de politique, qu'ils se frottent à la population. Attention, pas trop quand même, parfois ça pique. Et puis il s'agit de faire de la pédagogie, expliquer que les réformes s'inscrivent dans un projet global et à long terme de transformation du pays. Les perspectives maintenant, là encore, on est dans le moyen long terme, puisque ce sont dans un premier temps les élections européennes l'année prochaine, dans un second temps les municipales en 2020. Il s'agit pour le gouvernement comme pour La République En Marche de lancer dès aujourd'hui la campagne en vue de cette nouvelle séquence électorale, séquence qui s'annonce cruciale puisque le projet d'Emmanuel Macron s'inscrit à la fois dans une perspective européenne et à la fois dans une stratégie d'ancrage local dans les territoires avec les municipales, car à cette heure, En Marche ne dispose pas d'ancrage local. On est donc là pleinement dans le lancement de cette nouvelle phase de conquête électorale et on pourrait presque voir là une sorte de parallèle entre le macronisme et le bonapartisme qui ne semblait pouvoir exister il y a deux siècles de ça que dans la conquête perpétuelle.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Un tout petit mot peut-être Sylvie Matelli là-dessus, non pas sur les un an mais sur le plan économique puisque vous êtes économiste. Est-ce que vous pouvez dire que l'année a été favorable au développement de l'économie, au rebond de l'activité, alors que parfois on a des signes qu'au contraire ça va mais ça redescend aussi après, c'est pas très net finalement. Quel est votre diagnostic ?
Alors l'année a été relativement favorable, effectivement Monsieur Macron a bénéficié d'une reprise très nette de la croissance avec des perspectives qui se confirment pour les mois qui viennent. Simplement, c'est vrai que cette croissance pourrait malgré tout être freinée ou pénalisée par ce que certains appellent les inégalités et qui sont en réalité l'impression qu'on ne favorise que les plus aisés dans cette société. Donc on a un élément extrêmement fort et sur lequel il est fort probable que la présidence et le gouvernement travaillent dans les mois qui viennent.
Voilà, travaillent aussi notamment dans ces entreprises pour retrouver un peu un lien avec la population. Merci beaucoup. On vous retrouve donc tout à l'heure. Il faut parler encore de cette opération d'expulsion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est la seconde qui visait une dizaine de squats ce matin. Les barricades étaient en feu sur la départementale 81, notamment celle qui traverse la ZAD, dont les accès étaient bouclés par les gendarmes. Il y a 80 personnes qui faisaient face aux forces de l'ordre ce matin. Et vous y étiez, Yann Gallic.
Cette nouvelle vague d'expulsion se déroule dans un calme relatif depuis 6 heures ce matin. Pour l'instant, pas d'affrontements violents, juste quelques escarmouches. Rassemblés derrière des barricades, les zadistes ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des bombes assourdissantes et un peu de gaz lacrymogène. Mais les militants les plus radicaux de la ZAD, qui sont environ une centaine, n'ont pas opposé une grande résistance face aux 1800 gendarmes mobilisés pour cette opération. Un hélicoptère et des drones survolent toujours la zone, une colonne de blindés a pris le contrôle de la route départementale qui traverse le bocage de Notre-Dame-des-Landes. Un axe qu'il va falloir dégager car cette route est parsemée de barricades. Au moins une dizaine de squats devraient être détruits, nous expliquait Richard Lizuret, le directeur général de la gendarmerie qui est sur place pour superviser les opérations. Alors quand on parle de squats, il faut imaginer des abris de fortune, des cabanes en bois ou en tôle, des tentes dispersées sur la ZAD, dans les champs et dans la forêt. Des endroits parfois difficiles d'accès, surtout pour les pelleteuses. Ces expulsions concernent uniquement les zadistes qui n'ont pas régularisé leur situation auprès de la préfecture. Ils avaient jusqu'à lundi pour le faire. Ce démantèlement pourrait prendre plusieurs jours.
L'université de Rennes annule les examens qui devaient se tenir dans la journée en raison d'un blocage des bâtiments des épreuves. Donc un groupe d'environ 300 individus, dont une partie cagoulée extérieure à l'établissement selon la direction, s'est organisé pour bloquer les bâtiments où devaient donc se dérouler ces examens. La direction précise qu'elle mettra tout en œuvre pour assurer la tenue prochaine de ces mêmes examens, modalité à communiquer très prochainement. Les évolutions du paysage audiovisuel en France, avec deux nominations importantes hier qui concernent le secteur de la radio. La nouvelle présidente de Radio France, Sybille Veil, a choisi le journaliste Guy Lagache comme directeur délégué aux antennes, qui remplace donc Laurent Guimier, qui lui a été confirmé à la tête d'Europe 1. Dans les deux cas d'ailleurs, c'est un peu le même scénario, enfin le même projet en tout cas, le média global qui avance à grands pas, et en particulier à Radio France. Selon le communiqué de la présidence, l'arrivée de Guy Lagache doit nous permettre de renforcer l'organisation au niveau du groupe en vue d'instaurer cette nouvelle complémentarité entre les chaînes tout support. Il accompagnera la création de nouveaux formats éditoriaux, l'expérimentation de nouvelles écritures qui doivent nous permettre de disséminer nos contenus auprès de publics renouvelés et diversifiés. Tout ça mérite quand même quelques explications. Éric Chavreau.
Radio France, et je cite la Sybille Veil dans ce communiqué, Radio France aborde aujourd'hui un nouveau tournant dans sa stratégie de développement du média global. Ce sont ses premiers mots. La nouvelle présidente du groupe de service public annonce clairement sa stratégie et précise que chaque chaîne prise isolément et Radio France dans son ensemble doivent penser la chronologie des contenus. Selon elle, l'ensemble de l'espace de distribution s'est élargi à tous les supports du média global. Le média global, soit la radio, mais aussi les images et le texte, avant tout via le numérique, sur les réseaux sociaux et le web, et via la télévision, d'où le choix assumé de Guy Lagache, homme de télévision connu du grand public pour avoir présenté l'émission Capital sur M6. Chargé de la stratégie éditoriale de Radio France à partir de fin juin, il pilotera aussi le développement de contenus innovants, adaptés aux nouveaux moyens de diffusion et d'écoute, comme les assistants vocaux. Ce profil rappelle celui de Catherine Nel, devenue il y a peu directrice de l'information de France Inter, après une longue carrière à TF1, en attendant toujours le projet de loi sur l'audiovisuel public annoncé par Emmanuel Macron. Deux postes clés ont donc basculé pour des enfants de la télé et du privé, d'où la crainte de certains d'un rapprochement accéléré avec France Télévisions aux aires de nouvelles ORTF. Hier, lors du premier comité central d'entreprise de Sybille Veil, le directeur de France Bleu a d'ailleurs précisé sa collaboration avec France 3, avec le projet d'émission politique et en fin d'année à Paris, une tranche commune le matin, où comment se concrétisent les synergies déjà demandées par l'exécutif à l'audiovisuel public. Pendant ce temps, Laurent Guimier a lui quitté la Maison Ronde pour aller diriger sa radio de cœur, Europe 1, où il devrait appliquer sa recette du média global lancé à France Info, une réussite d'audience pour la radio et le numérique, mais encore à la peine pour le petit écran.
Merci beaucoup. Éric Chavreau, vous écoutez la radio France Culture, 12h48. En République démocratique du Congo, épidémie d'Ebola qui continue de prendre de l'ampleur. Premier cas détecté en zone urbaine. Depuis le 4 avril dernier, il y a au moins 3 décès qui sont imputés à Ebola, qui ont été enregistrés. Donc dans des zones rurales, ça rendait finalement plus simple la circonscription de cette maladie. Mais la détection d'une personne contaminée dans une ville de près d'1 million d'habitants, ça change évidemment la donne, Elia Bergel.
Pour le ministère de la Santé congolais, pas de doute, l'épidémie est entrée dans une nouvelle phase depuis hier. Un premier cas d'Ebola a été détecté à Mbandaka, dans le nord-ouest du pays, une ville qui compte près d'1,2 million d'habitants, ce qui augmente considérablement le risque de contamination car le virus Ebola se transmet via le sang ou les liquides biologiques des personnes infectées, la salive, l'urine, les selles ou le sperme. Jusqu'ici, l'épidémie d'Ebola était cantonnée à la localité de Bikoro, dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. C'est là que 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques et 17 décès ont été signalés au début du mois de mai. Rapidement, des experts sont dépêchés sur place et Joseph Kabila, le président de la RDC, déclare l'état d'épidémie le 8 mai. Pour tenter de limiter la propagation du virus, l'Organisation mondiale de la santé a livré hier près de 5400 vaccins en République démocratique du Congo, des vaccins testés avec succès pendant l'épidémie d'Ebola de 2015 en Guinée. Nous sommes mieux armés qu'auparavant pour faire face aux évolutions inquiétantes de l'épidémie, a déclaré ce matin l'Agence de santé des Nations Unies, car pour l'OMS, pas question de faire comme entre 2013 et 2016, sa lenteur face à l'épidémie d'Ebola avait alors été très critiquée. Le virus avait fait 11 300 morts, essentiellement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
Élie Habergel, merci. 1h10, on revient vers l'invité de la séquence interview, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS. Question de Marie Viennot.
Sylvie Matelli, bonjour. Alors, vous connaissez bien ces sanctions commerciales. Je parle des sanctions à visée politique, pas des sanctions pour dumping, pour les avoir étudiées et pour avoir publié un rapport il y a un an sur la performance des sanctions internationales. Alors, les sanctions contre l'Iran ont été très longues, renforcées dans les années 2000. Diriez-vous qu'elles avaient été efficaces ?
Alors, il faut distinguer deux choses, en fait. Les sanctions, vous l'avez dit, qui ont été imposées à partir de 1979 par les États-Unis, renforcées ensuite par les Européens ou les Nations Unies, dont on peut douter de l'efficacité, puisqu'elles ont finalement renforcé le régime et permis au régime de développer toute une propagande à l'encontre des États-Unis et de leurs alliés sur ces questions. Par contre, force est de constater, c'est souvent l'avis c'est ce qui est admis au niveau des experts de ces sanctions, force est de constater que les dernières sanctions, celles qui ont porté sur le programme nucléaire, iranien ont été relativement efficaces puisque est allé se négocier ensuite un accord pour lever ces sanctions avec un engagement ferme des Iraniens de cesser toutes leurs activités dans ce domaine. Et c'est le pari qui a été fait par cet accord, d'ailleurs assez étonnamment plutôt par les Américains que par les Européens, que c'est en négociant un accord et une sortie de crise et en soutenant l'économie iranienne qu'on parviendrait à normaliser nos relations et à faire entrer l'Iran dans les rangs.
Donc finalement, ces sanctions ne sont efficaces que si elles aboutissent derrière à des négociations.
Tout à fait. Ces sanctions ne sont efficaces que si on pense leur sortie. Et c'est rarement le cas, malheureusement.
C'est-à-dire que là, en ce moment, les États-Unis sont en train de sortir de l'accord. Est-ce que les Européens, d'après vous, peuvent rester tout seuls ? Avec bien sûr les Russes et les Chinois, mais est-ce qu'ils peuvent faire fi des sanctions américaines ?
Oui, ils peuvent tout à fait rester dans cet accord et maintenir la position qu'ils ont eue en acceptant cet accord. Simplement, est-ce que ça change quelque chose pour les entreprises ? C'est là toute la question.
Et tout à l'heure, vous nous disiez que les entreprises allaient forcément être sanctionnées d'une façon ou d'une autre pour d'autres activités, ce qui fait que concrètement, même si les politiques le veulent, ça n'aura pas d'effet.
Tout à fait.
Oui, les sanctions, ça ne pourra pas se faire.
Tout à fait. Dans un modèle où le cœur du modèle, le centre du modèle, que ce soit pour les paiements, que ce soit vis-à-vis des communications et de l'Internet, sont les États-Unis, vous êtes dépendant des États-Unis et donc dépendant de ces sanctions américaines.
Alors, la France, justement, par la voix de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a redit cette semaine que l'extraterritorialité des sanctions américaines était inacceptable. Est-ce qu'on peut réellement s'en extraire ? Enfin, vous avez donné un peu le début d'une réponse, mais est-ce que, justement, c'était pas le but de l'Europe de s'extraire de la toute-puissance des États-Unis ?
C'est très compliqué. C'est très compliqué à très court terme. Or, les entreprises ont besoin de réponses assez immédiates parce que ça ne relève pas juste des sanctions et de la législation des sanctions. Il y a aussi, ça relève également des réglementations qui ont été mises en place au niveau des activités financières des banques. Donc ce sont les banques qui refusent et qui refusaient déjà d'ailleurs de financer un certain nombre d'activités pour les entreprises qui souhaitaient retourner en Iran. Donc on est sur un sujet extrêmement compliqué sur lequel l'Europe doit absolument se positionner, mais le positionnement n'ira probablement pas assez vite si tant est qu'il soit ferme et bien déterminé pour les entreprises.
Est-ce qu'on peut parler au niveau général d'un recul du libre-échange et d'un retour plutôt à des tendances protectionnistes en général dans le monde aujourd'hui ?
Très clairement, et c'est pas juste Monsieur Trump et le président Trump, on observe cela depuis plusieurs années déjà.
Alors parmi les solutions évoquées par la France et que présentées à ses partenaires européens, la mise en place d'un OFAC européen. Donc l'OFAC, c'est l'organisme aux États-Unis qui édicte les sanctions et les fait appliquer. Est-ce que c'est une idée intéressante d'après vous ?
C'est une idée intéressante. Aujourd'hui, les sanctions européennes, donc les sanctions sont décidées au niveau européen, par le Conseil européen. Simplement, elles sont appliquées ensuite au niveau national. Il est clair qu'avoir une organisation européenne qui les ferait appliquer et qui serait en mesure de poursuivre éventuellement les entreprises qui violeraient ces sanctions est une idée intéressante.
Alors, dernière question. On dit les Russes et les Chinois peut-être moins exposés à l'extraterritorialité des sanctions américaines. Pour quelles raisons ?
Alors, c'est ce qu'on a pensé jusqu'à ces dernières années. C'est l'argument qui était défendu. Pourquoi les Européens et pas les autres ? L'idée, c'était que les intérêts au niveau national, la difficulté qu'avaient les États-Unis à poursuivre des entreprises chinoises ou des entreprises russes, parce qu'il y avait moins de liens et moins de relations économiques directes, ça n'est plus le cas et on le voit très clairement avec l'affaire qui a récemment secoué, y compris le Congrès américain, avec la prise de position de M. Trump vis-à-vis d'une entreprise chinoise chinoise qui avait été sanctionnée à différentes reprises sur les sanctions et sur divers autres sujets, l'entreprise ZTE, et qui se retrouvait au bord de la faillite parce qu'incapable d'exploiter le système Android qui sera vraisemblablement repêché par le président Trump.
Merci beaucoup. Merci Sylvie Matelli d'avoir accepté notre invitation. Ben, j'ajoute aussi au niveau économique que par exemple ça peut avoir des conséquences aussi sur le prix du pétrole puisque le baril de Brent dépasse le seuil des $80. C'est une première depuis 4 ans maintenant dans un marché tendu du fait de ces incertitudes en Iran puis aussi au Venezuela. Un temps généralement ensoleillé, encore instable sur l'Est, des températures de 13 à 22 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.